pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
L'histoire se passe en novembre 2017 à Chicago, dans l'Illinois, aux États-Unis. Elle est rapportée par le Chicago Sun-Times. Ce mardi-là, c'est le jour de Halloween. Un jeune homme de 19 ans, Therion Pouncey, pénètre dans le Maxwell Street Express de la 116e rue, dans le sud de la ville, un restaurant qui sert principalement des hot-dogs, mais aussi des hamburgers, des saucisses polonaises et des travers de porc grillés. Il est environ 18h. Il est armé d'un revolver de calibre 38 qu'il pointe vers les deux employés de ce fast-food. Il leur demande d'abord de remettre leur téléphone portable et de lui donner aussi leur portefeuille. Puis il braque son arme contre la tempe d'un des deux serveurs, exigeant qu'il ouvre la caisse et lui remette tout l'argent liquide qu'elle contient. Celui qui s'exécute est un homme de 39 ans qui se penche pour lui donner l'argent, mais renverse au passage un récipient plein de graisse sur le sol. Au moment où il donne les billets, il glisse et l'argent se retrouve éparpillé par terre dans le restaurant. Therion Pouncey range son revolver dans sa ceinture, dans la ceinture de son pantalon, et se penche pour ramasser tranquillement les billets. Mais rapidement, il glisse à son tour. Il actionne alors accidentellement la gâchette en se penchant et se tire lui-même dans le bas-ventre. Les caméras de vidéosurveillance qui ont enregistré la scène montrent ensuite que les deux employés essayent de lutter contre le malfaiteur, mais qu'il parvient péniblement à se débattre et à se traîner hors du magasin. Une fois dehors, il appelle des secours auxquels il déclare avoir été victime lui-même de tir. Therion Pouncey, pratiquement émasculé, est donc conduit à l'hôpital avec son butin et sa blessure honteuse. Il ne faudra que quelques heures à la police pour établir, grâce à une rapide étude de la trajectoire de la balle et à des extraits de la vidéosurveillance, que ce jeune homme est l'auteur d'un des braquages les plus foireux de l'histoire des braquages ratés en 2017. Avant cela, chaque année a compté son lot de hold-up, plus ou moins réussis, sanglants, inventifs, meurtriers, lucratifs, organisés, spectaculaires ou minables, des braquages qui sont devenus des films, des faits divers, des séries, des mémoires ou des erreurs judiciaires, mais le plus souvent des peines de prison. Aujourd'hui, dans Les Pieds sur Terre, ce sont deux autres braquages, tous deux à la poste, racontés par ceux qui les ont vécus ou pas, par une victime et un accusé, à tort bien sûr, comme on l'entend dans Les Pieds sur Terre, donc sur France Culture, par Judith Chétrit.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe, c'est comme ça que les choses arrivent.
C'était le vendredi 15 mars 2013. J'arrivais au bureau de poste situé au Mans où je travaille, où je suis directeur. Et à 8h08, j'ai eu ce hold-up. Quand j'ai ouvert le bureau de poste, je suis donc seul. Et j'étais surpris de voir à un moment donné deux pistolets sur la tête, comme ça, sur la tempe. Je me demandais ce qui m'arrivait. Et finalement, en quelques secondes, je sais pas, une, deux, trois secondes, j'ai compris que c'était une agression. Et puis là, on fait ce qu'on nous dit de faire. Donc, ils m'ont demandé d'enlever les alarmes. Donc, il y a une première alarme dans l'entrée que j'ai enlevée. Il y a une deuxième alarme que j'ai également enlevée. Ensuite, on se dirigeait vers la caisse où il y avait des coffres. Et là, dans le coffre, dans la salle des coffres, il y a deux alarmes enlevées. J'ai bien enlevé la première. De toute façon, on cherche pas à faire de mauvais gestes. Et quand j'ai voulu ôter appuyer sur le deuxième bouton, ils m'ont dit surtout, non, ne le fais pas, tu vas déclencher l'alarme. Et moi, je me suis dit, chouette, ça va déclencher l'alarme. Faut savoir que si ce bouton poussoir n'est pas activé, ça déclenche une alarme. Et donc, la société de télésurveillance nous met sous écoute. Donc, j'avais suivi le mercredi avant le braquage, une formation justement sur la conduite à tenir justement en temps d'agression. Et ça m'a servi justement pendant l'agression parce que ce jour-là, j'ai dit tout ce que je faisais en pensant que l'alarme allait, j'allais être sous écoute déjà d'une. Et puis ça me rassurait et puis j'étais bien concentré sur ce que je faisais. Et donc j'ai attendu désespérément, enfin attendu sans attendre parce que puis c'est sous la tête. Ils m'ont fait mettre à genoux pour ouvrir le coffre et puis il y a une temporisation sur ce coffre donc on ne peut pas l'ouvrir tout de suite. Il faut aller attendre 25 minutes. Donc, eux ne pouvaient pas comprendre que je pouvais pas l'ouvrir. Donc, c'est à partir de là que j'ai reçu des coups de poing, des coups de crosse sur la tête, et puis tout ça, quoi. Puis c'est long, quand même. À un moment donné, je me suis dit, c'est des vrais, c'est des faux. Quand j'ai eu dans le coup, c'était pas froid. Donc là, je me suis dit, c'est des faux. Mais bon, j'ai pas voulu tester non plus. Je pensais qu'un jour, j'aurais un braquage, mais je ne pensais pas que ça se passerait comme ça. Je pensais plus le braquage au guichet, mais pas une agression comme ça le matin. C'est brutal. Ça va peut-être vous surprendre, mais j'ai reconnu un agresseur qui était un client. J'ai reconnu à ses yeux, bien qu'il était masqué, et qui venait avec un Porsche Cayenne noir. Et cette voiture, elle était garée pas très loin, elle était garée sur mon parcours. Mais bon, sans plus de... Je me méfiais pas, finalement. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'ils avaient fait des repérages. Et ma crainte, c'était les convoyeurs qui devraient livrer des fonds, justement, ce vendredi, entre 8h15 et 8h30. Et le hasard faisait bien les choses, pour une fois, le camion des convoyeurs est tombé en panne. Si bien que les convoyeurs n'ont pas pu passer à ce créneau-là. Ma crainte était amplifiée parce que les convoyeurs, eux, ne font pas de sommation, eux, ils tirent. Et ma crainte, c'était d'être entre les deux. Donc, voyant qu'ils ne pouvaient pas prendre l'argent qu'il y avait dans le grand coffre, on s'est ensuite dirigé vers les guichets où ils pensaient qu'il pouvait y avoir quelques euros. Mais c'est à ce moment-là que les policiers sont arrivés. Des policiers qui ont été prévenus par un passant qui a vu qu'il se passait quelque chose d'anormal dans le bureau de poste, qui a voulu appeler les policiers. Manque de peau, son téléphone ne fonctionnait plus. Il est allé à la préfecture où il travaillait, où il a prévenu le planton, qui lui-même a prévenu le commissariat, qui a appelé la patrouille. Et la patrouille est entrée, il devait être 8h24, je crois, quelque chose comme ça exactement. Mais lorsque je vois les policiers entrer, je suis amené à me réfugier dans les toilettes, fermé à double tour. Et après, j'ai attendu que ça se passe. J'entends très peu de choses, si ce n'est les mains en l'air. Après, il faut savoir que il y avait la factrice qui apporte notre courrier, le courrier du bureau. Bon, forcément, la porte était ouverte, les rideaux étaient arrachés. Et puis la factrice a demandé, il y a quelqu'un ? Et moi, je me suis dit, je sors pas, je sais pas qui c'était. Finalement, je suis sorti, mais bon, tout tétanisé. En fin de compte, j'ai bien vu que c'était la collègue qui rentrait, et puis je lui ai dit, écoute, je me suis fait hold de paix. Et moi, quand je sors, je ne vois plus personne, plus les policiers, je ne vois plus les agresseurs. J'ai appris par la suite qu'un des agresseurs avait été pris en sortant du bureau, et l'autre s'est enfui. Et donc, à partir de là, les chefs sont arrivés, la police est arrivée, les pompiers sont arrivés, enfin tout ça... Ils sont un peu compatissants, ben oui, ça va, tout ça, t'inquiète pas, on va s'occuper de toi. Enfin là, je suis un peu chouchouté. J'ai été emmené à l'hôpital, voir le médecin légiste, pour voir les traces de coups que j'avais reçus sur la tête. Ça fait très mal un coup de crosse de pistolet. Autant les coups de poing, bon, ça fait des marques, c'est pas. Un coup de crosse de pistolet, ça nous prend la tête, c'est horrible. Ça fait pas beaucoup de marques, mais ça fait très mal. Ben après, c'est dans la tête que ça se passe. C'est une trouille après qu'on a. Puis, je n'osais pas sortir. Je n'osais pas sortir. Et puis, quand je me suis résigné à sortir quand même, je longeais les murs, tellement j'avais la trouille. Alors, on m'a demandé si je voulais un suivi psychologique. Mais seulement, ce soutien, j'ai commencé à avoir le rendez-vous chez le psy que 15 jours après. 15 jours après, c'était beaucoup trop long. C'était sur le fait qu'il fallait limite parler. Mais pas 15 jours. 15 jours, ça s'est emmagasiné. C'était dans le fond. C'était pas. J'en ai parlé à mes collègues, aux amis. Mais j'ai raconté 10 fois, 20 fois, voire beaucoup plus. À aucun moment, personne ne m'appelait pour me demander si j'allais bien, si j'allais pas bien, comment j'étais. Le seul appel que j'ai pu avoir, c'était pour me demander quand est-ce que je reprenais le travail. Il me semble que j'ai repris début mai. Mais j'étais pas, j'ai voulu reprendre pour dire, ben, faut y aller. Mais finalement, j'étais pas bien. J'étais pas bien, j'ai travaillé comme ça, oui, 2 mois. Et puis, je me suis après à nouveau arrêté 2 mois, juillet-août, et j'ai repris en septembre après les vacances. Quand j'ai repris, toujours l'appréhension, quand il y avait un client qui rentrait, qui mettait une main dans la poche pour sortir une pièce d'identité, sortir un avis de passage ou autre, il y avait toujours l'appréhension, il va me sortir quoi ? Donc j'ai repris le travail donc en septembre 2013, et puis j'avais toujours cette appréhension quand j'allais au travail, et finalement il y a eu une proposition de départ anticipé, et je suis parti en retraite en février 2015. Ma grande interrogation, c'était de savoir pourquoi je n'ai pas été mis sous écoute plus tôt. Le bureau a été mis sous écoute à 8h24, alors qu'à 8h24, tout le monde était parti, quoi. Et on nous répond, ben oui, à cette heure-ci, à l'ouverture du bureau, il y a des fausses alarmes, il y a des vraies. Ils en prennent une au hasard parce qu'ils n'ont pas suffisamment de monde. Mais moi, c'est une réponse qui ne me satisfait pas du tout. Donc c'est pour ça que j'ai déposé une plainte pour non-assistance à personne en danger. Mais depuis... Depuis, je n'ai aucune réponse, malgré toutes les lettres de relance que j'ai fait. Il faudrait que ça vienne vite quand même, parce que le délai de prescription est de 5 ans. En janvier 2016, où le procès a eu lieu 4 jours, auquel j'ai assisté aux présentations des coupables, moi j'ai dû témoigner le lendemain, je pense. Ce qui était encore plus impressionnant, c'est que convoqué donc le lundi matin pour l'audience, on attendait ensemble. Nous étions dans la même salle. Là, ça m'a fait un drôle d'effet quand même. Et c'est la première fois que je les revoyais. Alors, c'était une équipe qui venait de la région parisienne. Ils m'ont choisi moi, si je peux dire, parce que bon, peut-être bureau ou agent seul, donc plus facile à voler, oui. Et puis je pense aussi l'accès à l'autoroute, en 10 minutes, on reprend l'autoroute et puis le voyage est vite fait, quoi. Ils en étaient alors 4e ou 5e braquage, dont des prises d'otages. Il y en a un qui était toujours en prison parce que pour proxénétisme. Donc je dirais que c'était pas enfant de cœur, quoi. Ils ont été condamnés à 18 mois, à 6 ans de prison. Ils ont joué et puis ben, ils ont perdu, quoi.
Je suis Redouane Ikil, j'ai bientôt 46 ans, je suis père de famille et jusqu'en avril 2014, donc j'étais directeur d'agence bancaire, j'avais 4 agences sur le quartier du Mirail à Toulouse, donc les quartiers dits sensibles, et en moyenne je gagnais 4 850 € par mois. Je devais donc prendre un énième bureau qui se trouve à Tournefeuille, banlieue bourgeoise de Toulouse. Et c'était mon dernier poste parce qu'ensuite j'avais eu le feu vert pour évoluer vers un poste de ce qu'on appelle directeur des ventes, c'est-à-dire manager de tous les établissements du secteur. Alors je dirais que c'est comme le début d'un film d'horreur parce que à 7h45 du matin on frappe à ma porte, c'est des policiers qui me disent vous êtes en garde à vue pour extorsion, enlèvement et séquestration en bande organisée. Donc je comprends pas trop au moment où on m'indique ça parce que je fais pas le rapprochement entre les 2 braquages qu'il y avait eu au préalable donc sur le bureau de poste de Saint-Cyprien et celui de Bellefontaine. Donc moi je dis ce que j'en savais parce que j'étais postier directeur d'agence, donc on avait été informé du mode opératoire des braqueurs, donc je savais ce qui s'était passé et comment ça s'était passé. Donc pour Bellefontaine, c'est déroulé en mars 2012. La collègue a été enlevée à la sortie de chez elle. Elle a été emmenée jusqu'au bureau de poste, forcée d'ouvrir le coffre. Ils ont récupéré 362 000 € en espèces. Et pour le deuxième braquage, c'était donc à la collègue de Toulouse-Saint-Cyprien. Là, c'était encore plus violent parce qu'ils ont été chez elle, ils ont attaché ses enfants, attaché son mari et l'ont emmené de force à Toulouse-Saint-Cyprien pour ouvrir le bureau de poste et tenter d'ouvrir le coffre. Ce qu'il y a de bien, c'est que les braqueurs sont rentrés trop tôt et donc ils ont déclenché l'alarme. Et heureusement, grâce à Dieu, il y a un des braqueurs qui s'est fait attraper sur le toit. Donc à la première heure de garde à vue, donc on me demande si je connais l'individu qui a été arrêté en flagrance. Donc je donne avec le nom, donc je dis non et on me présente une photo. Je reconnais la personne. Je lui dis oui, je connais cette personne, je ne sais pas comment elle s'appelle. Et elle me demande comment je la connais, comment. Et je leur explique que c'est quelqu'un qui doit graviter dans la boxe parce que je l'ai rencontré dans des galas de boxe, mais je ne connais pas son prénom, je ne l'ai jamais fréquenté. J'apprends que je suis suivi depuis 2 ans et au bout de 2 ans d'écoute, de filature, je leur demande s'il y a quelque chose. Ils me disent qu'effectivement qu'on ne m'a jamais vu avec lui, on ne m'a jamais entendu avec lui et aucun témoin ne dit que je fréquente ce monsieur. Donc c'est à ce moment-là qu'on m'indique qu'il y a une preuve contre moi. Donc très vite, ils me mettent sous le nez un croquis qui correspond à l'agence de Saint-Cyprien. Donc quand on me montre ce croquis, il me demande si je reconnais. Je dis oui, je reconnais ce croquis. Et il me dit, valait mieux que tu le reconnaisses parce qu'il y a ton empreinte palmaire, c'est la paume de ma main, qui est retrouvée sur le plan. Et il me dit, tu sais où c'est qu'on l'a retrouvée? Je dis non. Il me dit, chez le braqueur. Donc je leur explique précisément ce qui s'est passé, à savoir que j'ai été donc agressé chez moi le 11 janvier 2013, au sorti de mon travail. Donc il faisait nuit, c'était l'hiver. Donc 2 personnes m'attendaient dans mon appartement, donc ils avaient fracturé la fenêtre. Donc j'ai pris un coup, on m'a demandé donc si je connaissais l'agence Saint-Cyprien. Je dis oui, je connais. Il m'a dit tu vas faire le plan, donc j'ai fait le plan. Donc c'était un croquis extrêmement sommaire où il n'y avait aucune indication sur les caméras ou le positionnement des détecteurs de présence, rien du tout, rien du tout. Et c'est là qu'on m'a menacé de représailles concernant mes enfants, en me disant que si je bougeais ou si je cafetais quelque chose aux enquêteurs ou à la police, bon, que s'occuperait de mes enfants. Alors, la première réaction de l'enquêteur en chef, il me dit « Ton histoire est plausible, mais je ne te crois pas. » Et moi, si vous voulez, entre 2 auditions, on vous ramène en geôle. Donc, dans la geôle, effectivement, je m'en suis voulu énormément de ne pas avoir porté plainte pour cette agression-là. Mais après, ce n'est pas un réflexe qu'on a quand on a grandi dans les quartiers, quand on habite les quartiers. On ne connaît jamais les répercussions sur la famille, sur les entourages. On ne porte pas de plainte. Il y a eu un deuxième élément qui était à charge contre moi. Le 21 avril 2012, pour être précis, j'avais reçu un SMS sur mon téléphone d'un numéro qui n'était pas enregistré sur mon répertoire, m'indiquant si je peux venir, point de rendez-vous. Donc moi, j'ai fait une confusion parce que à l'époque, en 2012, il y avait très peu de numéros qui commençaient par 07. Et le seul que je connaissais, c'était mon électricien parce que j'étais en train de construire ma maison. Donc j'ai répondu oui, il n'y a pas de problème. Je demande à mon frère de récupérer mon électricien. J'indique que le terme électricien est utilisé. Et les enquêteurs ont pensé que c'était, et le juge d'instruction, ont pensé que c'était un code en parlant d'électricien, en disant que c'était monsieur le braqueur. Et en fait, après avoir vérifié, le rendez-vous s'est pas fait. Le numéro de téléphone, il a été la carte SIM qui a été utilisée pour me contacter a été retrouvée chez le braqueur présumé. Mais comme je l'ai toujours dit, je dis c'est pas moi à expliquer quelqu'un qui cherche à me contacter. C'est forcément quelqu'un qui m'a connu ou qui me connaît ou qui a cherché à me mettre en cause parce que j'étais président du club de boxe. Et à ce titre-là, toutes les informations liées au président de l'association sont identifiables sur Google. Donc le lien a été fait. Saint-Cyprien, le croquis, mon empreinte, le braqueur. Donc là, mon sort était scellé. Signifie le scénario que s'est mis en tête le juge d'instruction. Il me dit, pour moi, vous avez donné le coup, sans penser aux conséquences, et vous ferez 1 an de prison et vous serez condamné à 5 ans, maximum. quand je me fais arrêter, pendant 4 mois de détention, la seule chose qui me travaillait, je n'ai pas dormi. D'ailleurs, ça a fait l'objet de signalement au niveau du psychiatre. J'étais persuadé toutes les nuits qu'au lendemain, on viendrait me chercher en me disant que c'était une erreur. Excusez-nous, monsieur Hidil. Parce que ce qu'il faut que vous sachiez, c'est quand même que j'ai été mis en examen, incarcéré pendant 38 mois et 2 semaines de détention préventive. Ce que je comprends pas, effectivement, c'est effectivement la longueur de ma détention, parce que je suis pas quelqu'un qui est réputé être voyou, je n'ai pas de casier judiciaire, j'ai un parcours qui est reconnu comme exemplaire, mais après avoir rencontré beaucoup d'avocats, des ténors du barreau, m'a expliqué que effectivement c'est une stratégie du magistrat instructeur pour que je puisse arriver et être présenté à la cour d'assises menotté, ce qui aura un impact psychologique auprès des jurés. De suite, si vous voulez, l'humain est naturellement enclin à penser que c'est un voyou qui est encadré. Donc, on m'a gardé pendant 38 mois. Les jurés se posent la question, pourquoi on l'a gardé 38 mois? Si on l'a gardé 38 mois, c'est pas pour rien. Donc, vous voyez, c'est une machine à broyer. Et si vous n'avez pas le mental pour, ben, soit vous avez la solution de vous suicider, soit vous vous battez comme j'ai pu faire. On a monté avec ma femme un comité de soutien et on organisait des manifestations systématiquement quand je passais en demande de remise en liberté. Donc il y a un site qui a été créé, il y a une page Facebook avec une pétition. Donc voilà comment je me battais au-delà des demandes de remise en liberté que je me suis forcé à le faire toutes les semaines. Mais j'étais pas à l'abri d'une erreur de la machine judiciaire qui, avec des délais non respectés, j'aurais pu ressortir. Donc le procès intervient, il démarre le 21 juin 2017 et il se terminera le 30 juin 2017 à 15h30, où j'apprends donc mon acquittement et ma remise en liberté parce que je repars en prison pour récupérer mes affaires et signer les papiers pour ma remise en liberté. Il y a eu 24 questions et aux 24 questions, les 6 jurés, à l'unanimité, ont dit non coupable. Donc j'entends ici et là, de temps en temps, j'ai même lu que j'étais acquitté sur la base du doute. Ceux qui ont assisté au procès vous diront qu'il n'y avait pas de doute, parce que quand il y a un doute, il n'y a pas 24 fois non coupable par 6 personnes. Donc à la sortie de prison, le 30 juin, je suis sorti, j'ai été acquitté à 15h30, à 18h à peu près, je suis arrivé à la maison. Donc il y avait mon comité d'accueil. Et l'huissier est arrivé en suivant. Et arrivé en suivant, il m'a signifié que c'était une lettre de la poste, m'indiquant que je réintégrais les effectifs de la poste et que mon salaire était remis en route. Donc on me demande par contre de rester à la maison parce que mon poste a été comblé. Par contre, 10 jours après, là c'est la chute, parce que je reçois une convocation pour la commission de discipline en vue d'un licenciement. Que je me suis dit, bon, ils vont me mettre une sanction, mais ça va pas être... Je pensais pas au licenciement, parce que je contacte les syndicats. On me dit, non, licenciement, tu n'as pas commis de faute, donc tu vas prendre un avertissement ou un truc comme ça, mais bon. Donc j'y vais avec mon avocat, et c'est là qu'on m'explique, il faut que je me réexplique sur tout ce que j'ai dit au procès, comment, pourquoi, et pour qui, pourquoi. Donc j'aurais dit, je me suis un petit emporté, j'aurais dit, on n'est pas là pour refaire mon procès, parce que je vous rappelle quand même que vous avez effectivement un arrêt où à la fin il y a marqué que je suis acquitté. Donc on n'est pas là pour reparler de ma culpabilité. On arrive à la conclusion de cette commission de discipline où il est décidé que je suis pas, on proposera pas mon renvoi, mon licenciement pour faute grave, mais on diminue le niveau de sanction pour cause réelle et sérieuse. L'élément qui met en avant, c'est que j'aurais dû signifier que j'avais été agressé. Donc, du fait que je n'ai pas dénoncé cette agression, ce n'est plus compatible avec la fonction de directeur. Donc, on verra. Les prud'hommes, ce que donneront le conseil des prud'hommes l'année prochaine, certainement. « Aujourd'hui, donc, je candidate un peu partout en tant que manager. Donc, je cherche un poste de cadre. Mais c'est très difficile, effectivement, de trouver aujourd'hui un emploi compte tenu du contexte du marché. Et surtout, si un directeur des ressources humaines il tape mon nom et mon prénom, malheureusement pour moi, aujourd'hui, c'est que des faits divers. Avant, c'était des articles élogieux parce que j'étais sportif de haut niveau. Et voilà, donc je pense que ça va être très compliqué pour moi de retrouver du travail, mais je ne perds pas espoir de trouver un directeur des ressources humaines qui me donne ma chance parce que je suis un très bon manager.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, Braquage à la Poste, un reportage de Judith Chétrit réalisé par Philippe Baudouin. Merci à Joël Bourdet et à Redouane Ikil. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production. Les Pieds sur Terre, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Nous avons une page Facebook et un compte Twitter qui vous attendent nombreux.
You feel like an insect, well, don't you worry, buddy, 'cause here he comes through the ghettos and the barrio and the barry and the slum. His shadow is cast wherever he stands, stacks of green paper in his red right hand.
Cog in his catastrophic plan, designed and directed by his radio.